Le jardinier de Versailles. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour Karine, bonjour à tous.
Bonjour Alain.
Ce matin, portrait de Joseph Banks. C'est un botaniste anglais né le 13 février 1743.
Et oui, Joseph Banks, qui est né dans une famille aisée, ce qui lui permet une scolarité de qualité. Ses professeurs ne tarissent pas d'éloges sur son sérieux et les résultats scolaires font la joie de ses parents. Joseph Banks consacre son temps libre à observer la nature et à confectionner, il n'a alors que 13 ans, un premier herbier.
Et du coup, à 17 ans, il entre à l'université d'Oxford.
Et à 18 ans, suite au décès de son père, il hérite d'une fortune colossale. Alors qu'il aurait pu vivre confortablement et sans rien faire, il poursuit ses études en philosophie naturelle et n'obtient aucun diplôme.
Ah bah bravo.
Mais qu'importe. Il rencontre d'éminents scientifiques qui lui donnent envie de devenir botaniste. Alors, pour découvrir l'univers des plantes, Joseph Banks embarque en 1766 pour le Canada. À peine est-il rentré en Angleterre qu'il repart pour un incroyable voyage autour du monde qui va le mener en Afrique, en Asie, en Australie, à Tahiti, en Amérique. Pendant 3 ans, il va découvrir, décrire et collecter des centaines de plantes comme, par exemple, l'eucalyptus, le mimosa. C'est pas une plante, j'en conviens. Le kangourou, qui n'est pas un végétal, mais c'est quand même à lui que l'on doit la première description du kangourou.
Et le retour dans son pays est évidemment triomphal.
Il est reçu par le roi George III, puis élu président de la Royal Society. Il est bien évidemment anobli et admis dans de très nombreuses académies européennes et américaines. Et j'avais envie, comme hier d'ailleurs, bien de remettre à l'honneur ces botanistes qui sont capables, encore aujourd'hui, de partir à l'autre bout du monde et simplement, avec une loupe, un cahier et un crayon, de définir une plante, ses caractères sexuels, sa famille, c'est extraordinaire.
C'est magique.
Des travaux qui servent encore aujourd'hui.
Tout à fait.
Vos conseils aux auditrices et auditeurs de France Inter, vos bons plans, Alain Baraton. Tief, pour commencer, il vit en Nouvelle-Calédonie. J'ai un capoc, dit-il, un capoc de plus de 30 mètres de haut. Le problème, c'est qu'il est termité à la base. Alors Tief cherche une solution naturelle afin de ne pas endommager cet arbre. Pouvez-vous aider Tief?
Moyennement, je réponds en 3 temps.
C'est quoi ça?
C'est le fromager. C'est un très bel arbre qui grandit très, très grand, qui est vraiment un arbre costaud, et qui effectivement est un arbre sublime, qui est victime des termites. Mais il s'avère que la termite, là, j'ai pas une grande compétence. Je suis pas un spécialiste des problèmes phytosanitaires de Nouvelle-Calédonie. Ce que je sais, par contre, c'est que quand un arbre a le bois endommagé, aucun produit, aucune technique, aucun traitement n'est capable de redonner au bois son apparence d'autrefois, de le guérir. Donc qu'il se rapproche des autorités ou qu'elle se rapproche des autorités sanitaires de Nouvelle-Calédonie, mais un capoc endommagé par des termites. Alors peut-être.
Et donc il faut couper ou qu'est-ce qu'on fait?
Alors tout dépend de l'état de gravité parce que la termite est un insecte xylophage qui a boulotté le capoc. Donc si la base est vraiment gravement endommagée, il y a peut-être danger. Je ne peux pas en dire l'avantage. Simplement le capoc, c'est vrai, c'est un fromager. Lui, c'est un arbre magnifique. Ce sont des arbres absolument.
Dans le sublime.
Merci.
Dominique est inquiète car son tilleul n'a pas perdu toutes ses feuilles cet hiver. C'est un peu comme si le tilleul était devenu marcescent. Ça veut dire quoi d'ailleurs précisément marcescent?
Il existe des plantes caduques. Elles perdent leurs feuilles à l'automne. Des plantes persistantes qui restent vertes toute l'année. Et marcescentes comme beaucoup de chênes ou de hêtres, les feuilles à l'automne sèchent, mais elles ne tomberont qu'avec l'apparition des nouvelles feuilles au printemps. Les feuilles tombent en automne lorsque l'hiver arrive. Et il y a tout un processus extrêmement complexe. Je pense que le tilleul était en pleine photosynthèse. Il continuait d'alimenter les sèves avec les feuilles avec de la sève. Il y avait toujours cette action au niveau des feuilles du gaz carbonique et du soleil. Et le gel est arrivé à bloquer l'action de la photosynthèse brutalement, ce qui fait que la plante n'a pas pu produire ce petit bouchon de liège qui prive la feuille de sève et l'a fait chuter. Il n'y a rien à faire. On verra bien au printemps. C'est pas très grave. C'est pas extraordinaire. Ça arrive de temps en temps. C'est quand même étonnant pour un tilleul.
Est-il possible, demande Thomas, est-il possible qu'un plant de tomate résiste à l'hiver?
Oui.
Hiver doux, forcément? C'est ça?
Oui, mais enfin, vraiment très très doux. Le problème du pied de tomate, c'est qu'il n'y a pas que le froid, il y a aussi l'humidité. S'il ne meurt pas avec le froid, il va mourir avec les maladies. Mais souvenez-vous que la tomate est originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, et que dans ces pays, elle est vivace. Le bégonia que nous cultivons en France comme annuel, dans son pays d'origine, est une plante qui est vivace. Donc, oui, c'est possible, mais ce serait quand même franchement très étonnant. Oui. Et je n'ai pas de, non, j'ai pas de livre, j'ai pas de promenade. C'est simplement demain à la Saint-Valentin, l'occasion peut-être d'aller chez les fleuristes, faire des montagnes de fleurs pour les offrir à ses bien-aimés.
Et on n'est pas obligé de prendre que les roses, hein.
Oui, oui,
on aime toutes les fleurs.
Le message est passé, monsieur Bécard. Merci, merci Alain Baraton et à samedi prochain. À